Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous. Oui, Mediapolis. Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bienvenue chez nous ce matin.
Bonjour.
Et bonjour à tous ceux qui et celles qui nous écoutent.
En effet, dans cette émission réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet et moi-même pendant la nuit, nous avons la chance de recevoir Jean-Pierre Chevènement. C'était prévu à l'origine, à l'occasion de la publication de son livre « Qui veut risquer sa vie la sauvera », titre ô combien en résonance avec les événements actuels, sous-titre « Mémoire », formidable livre de plus de 485 pages. Mais finalement, on s'est dit que Jean-Pierre Chevènement était peut-être l'homme à entendre plus que jamais ce matin. Nous n'aurons pas d'émission, nous n'aurons pas de Canteloup aujourd'hui, puisque vous le savez, hier vendredi à 17h, un professeur d'histoire, Samuel Paty, a été décapité à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir discuté avec ses élèves des caricatures de Mahomet lorsqu'il traitait la partie du programme consacrée à la liberté d'expression. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Jean-Pierre Chevènement est, on va y revenir, fils d'enseignant. Son père et sa mère étaient instituteurs. Jean-Pierre Chevènement a été ministre de l'Éducation nationale. Il a été ministre de l'Intérieur et à ce titre en charge des cultes. Il a été un homme politique qui a joué un rôle décisif dans l'histoire de la gauche française depuis un peu plus d'un siècle. Et à tous égards, sa voix nous importe. Commençons par les faits, par l'effroyable fait d'un professeur d'histoire décapité. Écoutez, le président de la République, c'était hier soir sur place à environ 22h30.
Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé.
J'imagine, Jean-Pierre Chevènement, que, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais peut-être encore plus en tant que fils d'enseignant, vous êtes particulièrement, vous êtes comme l'immense majorité des Français, mais peut-être plus particulièrement concerné et touché. À la page 32 de votre livre, vous dites « Mes parents étaient tous deux », vous écrivez « Mes parents étaient tous deux instituteurs ». Et la page d'après, vous dites « Mes parents, tous les soirs, jusqu'à une heure tardive, corrigeaient les copies de leurs élèves ». Donc, évidemment, c'est pas comme si vos parents, l'un de vos parents avait été décapité, mais enfin, vous êtes particulièrement concerné d'une certaine façon.
Je sais ce cas à la fois d'ingrat et en même temps de très valorisant, le métier d'enseignant. C'est du travail. La tâche d'éduquer, c'est une tâche de tous les jours et même de tous les instants. Jusqu'à présent, cependant, on ne courait pas de péril mortel en enseignant ses élèves. Eh bien, nous sommes dans une situation différente. Nos enseignants ont fait un travail formidable. Si on prend ce qui s'est passé depuis, disons, Jules Ferry, les années 1880, ils ont réellement fait la France. Ils ont permis que la France continue. Mais ils se heurtent aujourd'hui à une difficulté particulière, qui est le développement de l'islamisme radical, non pas seulement dans leur classe, mais dans l'environnement, les parents. Et puis, on voit bien que l'assassin est quelqu'un qui tournait dans ces milieux. C'est-à-dire qu'il y a une pression extérieure qui s'exerce sur l'école et qui demande aux enseignants beaucoup de courage. Il leur faut non seulement poursuivre leur tâche, mais l'adapter au terrain et le faire avec beaucoup d'intelligence, en sachant qu'ils prennent des risques face à des fanatiques dont nous ne viendrons pas à bout en quelques années. Ça dure déjà depuis très longtemps.
Oui, on va y revenir. Mais donc, oui, Catherine Ney... Oui.
La violence, elle est à l'école depuis longtemps, parce que de votre temps, quand vos parents enseignaient, d'abord, c'était impossible que des parents viennent agresser les professeurs, voire les battre, parce que leurs enfants avaient une mauvaise note. Ça ne se faisait pas.
Non, à l'époque, les parents soutenaient plutôt les instituteurs.
Voilà.
Et venaient les encourager à manifester plus de sévérité encore, si c'était possible.
Donc, on a changé d'époque.
La situation s'est retournée depuis une bonne cinquantaine d'années.
Oui.
Où les parents prennent le parti des élèves, de leurs enfants.
Si vous permettez, vous généralisez un peu. Je ne pense pas que tous les parents prennent le parti de leurs enfants, que tous les parents s'en prennent aux professeurs. Là, vous faites un tableau apocalyptique. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais dire les parents...
Non, la tendance générale aujourd'hui est que la majorité des parents prennent le parti de leurs enfants contre les professeurs. Alors que ce n'était pas le cas, c'était même l'inverse, il y a un peu plus de 50 ans.
Mais alors, les choses étant ce qu'elles sont, et l'islamisme radical dont vous venez de parler, est-ce qu'aujourd'hui l'école est un lieu où un professeur peut tout dire, peut tout expliquer, parce que c'est dangereux?
Il doit tout expliquer, mais comme Jules Ferry recommandait qu'on le fasse, en veillant à ne pas blesser la conscience des enfants, en veillant à faire en sorte qu'ils puissent être instruits, en ne s'auto-censurant pas, mais en même temps, en ayant toujours présent à l'esprit que la conscience des enfants est une chose précieuse qu'on ne doit pas violenter. Hein. Cela dit, c'est un travail d'autant plus difficile que la France n'a plus l'homogénéité qui était celle de la société française il y a encore une cinquantaine d'années. La France est une France qui comporte des mouvances d'origine diverse qui ne se fondent pas facilement dans le creuset national. La tâche est d'autant plus rude parce qu'il faut poursuivre ce travail. Il ne faut pas baisser les bras, abandonner la tâche de l'intégration républicaine. On va faire comprendre ce qu'est la loi républicaine.
On va revenir, excusez-moi, mais malheureusement j'ai une tâche ici assez ingrate, vous avez la chance de ne pas l'avoir vous sur les bras, qui est de lancer des pauses, parce que je n'ai même pas le droit de dire de quoi il s'agit, c'est-à-dire de pub. Donc on se retrouve dans deux minutes, on va encore parler spécifiquement d'à quel point les profs sont touchés aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement, notre invité exceptionnel pour cette émission spéciale. Jean-Pierre Chevènement qui publie chez Robert Laffont « Qui veut risquer sa vie la sauvera » sous titre « Mémoire ». Et c'est d'ailleurs une citation, si je me souviens bien, de Matthieu, c'est ça ?
De Saint Matthieu, oui.
Ah bon. «
Qui veut sauver sa vie la perdra, qui veut risquer sa vie la sauvera ». C'est assez étonnant d'entendre Jean-Pierre Chevènement de voir Jean-Pierre Chevènement mettre son livre sous la référence, pas la tutelle, de Saint Matthieu.
Je ne l'ai pas cité, hein. Je lui ai emprunté cette phrase qui correspondait à mon état d'esprit au jour de mon premier engagement risqué.
Absolument. Alors à propos d'engagement risqué, Jean-Pierre Chevènement soulignait tout à l'heure que maintenant les professeurs étaient devenus une cible. Écoutez la réaction de Jean-Rémy Girard, qui est le président du SNALC, du Syndicat National des Lycées et Collèges, ce matin sur Europe 1.
Mon collègue était en train de traiter son programme. Il est en train de traiter des choses qu'il faut continuer de traiter à l'éducation nationale. Heureusement qu'on peut encore parler de liberté d'expression dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, parce que le jour où on ne pourrait plus en parler, ça voudrait dire qu'on aurait perdu. On baisserait les bras.
Jean-Pierre Chevènement, vous avez été ministre de l'Éducation nationale de juillet 1984 à mars 1986. Supposons que vous soyez aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et que moi je sois professeur, mettons en troisième, et que j'ai à assurer des heures de ce qu'on appelle enseignement moral et civique, EMC, et je vous pose la question, puisque déjà il y a des gens qui se dispute à ce propos, je vous pose la question, est-ce que dans un cours sur la liberté d'expression, je peux montrer des caricatures de Mahomet et les faire commenter et les commenter avec mes élèves pour qu'ils apprennent qu'ils vivent dans un pays où le blasphème n'existe pas et où la liberté d'expression peut se moquer de tout, y compris des religions? Est-ce que je vous demande, Monsieur le ministre, est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que vous me répondez?
Je vous réponds que s'il s'agit d'enseigner ce qu'est la liberté d'expression, on peut prendre toutes sortes d'exemples. en évitant peut-être de prendre ceux qui peuvent surprendre la conscience d'un élève. Cela dit, ça peut être les caricatures de Mahomet, mais ça suppose que ce soit dans le contexte et que ce soit bien expliqué. C'est tout ce qui fait la difficulté du métier d'enseignant, parce que ce n'est pas simple. Et maintenant, on le voit que, compte tenu de l'environnement, ça peut consister à prendre des risques. Et il y a dans nos écoles un certain nombre d'atteintes à la laïcité, d'insultes, de violences, de refus d'enseignement qui se manifestent et qui sont d'ailleurs rapportés au ministre par des référents laïcité sur toutes les étendues du territoire.
Catherine Ney, j'ai entendu ce matin ou hier soir tard, je ne sais plus, je m'y perds un peu, le chef du service politique d'une radio concurrente de qualité, France Inter, pour ne pas la citer, qui disait, qui rapportait le fait que lorsque ce professeur a eu ce cours, il a annoncé à ceux de ses élèves qui étaient musulmans qu'il allait montrer des caricatures et que si ça les gênait, ils pouvaient sortir. Et le chef du service politique en question contestait cela en disant « mais c'est pas normal, la laïcité, il n'aurait pas dû dire que ces élèves musulmans qui pourraient être heurtés peuvent sortir, tandis que d'autres disent au contraire « il a eu raison parce qu'il a fait son cours, mais il a respecté ses élèves ». Quelle serait votre position ?
Ce professeur, d'après ce que j'ai lu dans les journaux ce matin, avait déjà appliqué cette méthode l'année précédente en demandant pour ne pas choquer. Donc il a essayé de ne pas choquer parce que c'est très bien comment juguler l'islamisme radical, puisque c'est quand même le projet actuel, s'il ne s'exprime pas. Et s'il ne s'exprime pas devant ceux à qui on pourrait expliquer les choses. Moi, personnellement, je pense qu'il a été trop... Il a voulu trop ménager ses élèves, mais ce faisant, en demandant aux musulmans de partir, c'était déjà créer une cassure.
Non, il n'a pas demandé aux musulmans de partir, de ce que j'ai lu. Il a dit, ceux des d'entre vous musulmans que ça pourrait choquer, peuvent, s'ils le veulent, sortir.
Oui.
Ce n'est pas la même chose.
C'est pas leur dire partez.
Mais... Ce n'est pas les musulmans dehors.
Mais je me suis mal exprimée. Mais enfin, il n'empêche, il a fait une différence entre... les élèves qui ne sont pas musulmans et les élèves qui sont musulmans, comme s'ils ne pouvaient pas entendre une explication sur la liberté d'expression.
Réponse est qu'il faut qu'il rende son discours audible, en prenant peut-être quelques précautions, mais son discours doit être audible. Le cas échéant, il doit choisir d'autres exemples pour expliquer ce qu'est la liberté d'expression. Choisir cet exemple-là, parce que c'est le droit au blasphème qui existe dans la société, mais qui n'existe pas dans l'école laïque. Par contre, dans la société, le droit au blasphème existe, et je ne veux pas revenir à l'affaire Callas, on pourrait prendre des exemples dans l'Ancien Régime.
C'est très important, ce que vous dites est très clair, et donc je me permets de le répéter à ma manière. Nous sommes dans un pays démocratique, laïque, où la liberté d'expression comme la liberté de conscience existe, ce qui fait qu'il n'y a pas de délit de blasphème dans la société, mais à l'intérieur de l'école, où on doit respecter l'ensemble de ses élèves, un professeur ne blasphème pas devant ses élèves. Mais évidemment, là, il n'a en rien blasphémé.
En l'occurrence, il n'a pas blasphémé, il a pris un exemple pour essayer de faire comprendre ce qu'était la liberté d'expression, y compris le droit au blasphème, en dehors de l'école. C'est très difficile. Donc ça demande beaucoup de pédagogie et un choix attentif des exemples qu'on veut donner aux élèves pour qu'ils comprennent.
Montrer aussi qu'on peut blasphémer la religion catholique des catholiques viennent égorger.
Mais il ne faut quand même pas oublier le fait essentiel, c'est que ce malheureux a été assassiné ignoblement, alors que même s'il y avait eu des parents que cela choquait, il leur était facile de demander un rendez-vous au proviseur.
Oui, ce que certains ont fait d'ailleurs. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, parce que là, au moins, on essaye d'être précis sur des questions concrètes auxquelles se confrontent nos enseignants, nos parents, nos élèves, etc. Et dans notre société, on doit tenir les deux bouts face à des situations aussi dramatiques, d'avoir une sorte de rassemblement et d'unité de la nation, et en même temps, de pouvoir discuter dans le respect mutuel. Ce thème évidemment, de l'unité est ressorti très très fortement hier. On y vient dans deux minutes. Et notre invité Jean-Pierre Chevènement, l'homme qui est mort il y a 22 ans et qui a ressuscité, l'homme qui vient de publier « Qui veut risquer sa vie la sauvera », mémoire aux éditions Robert Laffont. L'homme qui a la passion de la nation. Son livre, l'incipit de son livre, l'incipit c'est la première phrase d'un livre, l'incipit de son livre, je vous la lis. « On ne naît pas impunément en 1939. Ma passion de la France a commencé cette année-là avec la guerre mettant à nu ses faiblesses. » Et sur le mot « passion », il ajoute une note en bas de page, du latin « patere », souffrir. Donc,
Je crois que c'est « pati ».
Vous avez écrit « patere » dans le livre.
Oui, c'est une erreur.
Ah bon, il va être content l'éditeur. Tiens, bon, ce sera pour la réédition, Jean-Pierre Chevènement. Ce sera pour la réédition. J'aime bien le « on ne naît pas impunément en 1939, ma passion de la France ». C'est un mixte, cet incipit, c'est un mixte du général de Gaulle, une certaine, je me suis fait une certaine idée de la France, et Saint-Just, on ne règne pas impunément. Vous avez pensé aux deux en écrivant cette ligne ou pas du tout ?
Non, j'ai laissé ma plume faire ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire tracer la première ligne, mais j'ai essayé d'exprimer moi-même la manière dont ma vie s'est agencée, puisque mon père a été fait prisonnier, et donc pendant 6 ans, j'ai été élevé par ma mère dans un petit village du Haut-Doubs, une classe à école unique.
Oui, vous étiez au fond de la classe. Donc c'est votre inconscient politico-historique qui a parlé, parce que dans le fond, vous êtes un gaulo-robespierriste, vous êtes à la fois gaulliste et robespierriste.
Comme tous les Français.
J'ai jamais entendu une phrase aussi inexacte, mais aussi drôle. Bon, alors, au lendemain, donc, mais pas au lendemain, au soir même de cet événement absolument abominable, le président de la République s'est rendu sur place, on en a écouté un très bref extrait tout à l'heure, et il a appelé à l'unité. Écoutez, c'était donc hier à 22h35, je pense.
La nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit. Faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard. Si ce soir, c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs.
Alors, je ne veux pas faire de la polémique, mais on a voulu atteindre la République dans ses valeurs. C'est une phrase qui aurait pu être prononcée par vous, Jean-Pierre Chevènement. Et pourtant, à la page 335 de votre livre, je lis à propos de vous-même et de votre, en l'espèce, vous évoquez votre démission au moment de la première guerre du Golfe. Il fallait une foi quasi sacrificielle dans la France et dans les valeurs qu'elle porte. Je ne suis pas sûr qu'elles inspirent encore les hommes politiques qui ont grandi avec la mondialisation, l'Europe et le sentiment que la nation a plus ou moins fait son temps. C'est assez sévère pour les hommes politiques d'aujourd'hui. Est-ce que, au moins, ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir n'est pas un bémol, sinon un démenti, à votre sombre évaluation ?
C'est un sérieux bémol, car en effet, Emmanuel Macron trouve une très bonne inspiration dans la nation quand il s'adresse à elle, une nation de citoyens, une nation où les enseignants ont un rôle éminent, où l'école républicaine a un rôle éminent, qui est de faire des citoyens, de les aider à penser par eux-mêmes et à acquérir bien entendu des connaissances, mais à les mettre en ordre de telle façon qu'ils ne perdent pas de vue l'idée du bien commun.
Catherine, vous avez surveillé, vous, une partie de la nuit, de la matinée, la diversité des réactions politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même, fort heureusement, un minimum de rassemblement, non pas d'unité nationale, mais d'unité de la nation dans la réaction immédiate à cette horreur, ou qu'au contraire, c'est déjà tout de suite les petites musiques critiques ?
Mais pour ce que j'en ai vu, parce que je n'ai pas tout lu, parce que je faisais un édito qui n'était pas sur le sujet, donc j'ai pas travaillé, mais il me semble que oui, Mais il faut voir dans les jours qui viennent comment la polémique va forcément surgir. Forcément, ça va arriver.
Non, mais qu'elle surgisse à un moment donné, c'est normal.
Mais là,
qu'il y ait un premier temps.
Mais là, parce qu'on est tous sur le coup de l'horreur quand même, qu'on coupe la tête d'un professeur. Et quand le président, il n'y a pas de hasard si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste est abattu. Moi, je dis que si j'étais enseignante, mais je serais morte de peur. Est-ce que si ce n'est pas un hasard, ça veut dire que ça va continuer? Non, mais c'est très difficile de dire ça aussi.
Le métier d'enseignant a toujours été difficile. Il demande aujourd'hui du courage, en particulier dans certains secteurs, mais parce que la situation est ce qu'elle est. La France est faite d'apports très divers, venu aujourd'hui du monde entier, et c'est plus difficile qu'à l'époque que j'ai connue ou dans l'école de ma mère, c'était des petits Italiens.
Dans un instant, maintenant c'est la pause.
Qu'il fallait intégrer à la France.
Ouais. Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Jean-Pierre Chevènement, auteur de Qui veut risquer sa vie la sauvera, mémoire aux éditions Robert Laffont. Alors si vous permettez, comme on dit, on va faire zoom arrière et on va essayer de regarder les choses d'un peu plus loin et en profondeur. Et poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un aveuglement collectif depuis plusieurs années, voire décennies? Il se trouve que j'étais, pendant qu'on a appris cet événement hier soir sur LCI, et que nous avons eu à un moment donné en duplex Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo. Et lui, il a été très sévère, il a considéré qu'on a laissé s'installer les choses, je cite ses mots, de l'ordre de la terreur, on n'a pas voulu voir. Rien n'a été fait de vraiment important. Il va falloir agir, mais très vite. Et Jean-Pierre Chevènement, lui, écrit, donc je rappelle, Jean-Pierre Chevènement a été ministre de l'Intérieur, donc en première ligne aussi sur ces questions, de juin 97 à août 2000. Et il écrit dans son livre à la page 358 « Si je croyais au départ, comme Emmanuel Todd, à la formidable capacité d'intégration de la société française, la multiplication des incidents dans nos banlieues avait éveillé ma vigilance quant au désir d'intégration des populations concernées et à la volonté même de la société française d'y parvenir. » Et il ajoute, sur cette question, la gauche avait longtemps péché par naïveté. J'entendais d'autant plus imprimer à notre politique le moyen d'une conversion républicaine que je voyais avec la montée des communautarismes, s'accumuler de lourds nuages à l'horizon. Et je vous rappelle ce que j'ai dit au début. Jean-Pierre Chevènement évoque ici ce qu'il pensait il y a un quart de siècle, quasiment un quart de siècle, il y a 23 ans. Alors Jean-Pierre Chevènement, est-ce que cet aveuglement, finalement, a continué? Et si oui, pourquoi? Et s'il n'a pas continué, pourquoi est-ce que les choses, peut-être qu'elles ne se sont pas dégradées, encore que, sont soit dégradées, mais en tout cas pas améliorées?
Alors, pour revenir sur l'aveuglement, rappelez-vous l'affaire du voile, le collège de Creil.
1989.
Ça fait plus de 30 ans.
Oui.
Revenons un peu plus encore en arrière. La prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini, en Iran.
1979, de mémoire.
Et la même année, l'occupation des lieux saints de la Mecque par des extrémistes sunnites, qu'on envoie ensuite en Afghanistan mener la guerre, le djihad, contre les soviétiques. Tous ces faits, je les voyais déjà à l'horizon. Et j'ai toujours été très sensible à la montée de l'islamisme radical quand il était probablement encore possible de le conjurer.
Oui.
Et si j'ai pris la position que j'ai prise au moment de la guerre du Golfe, c'est que j'ai vu qu'en brisant l'échine de l'État irakien, on allait encore plus ouvrir la voie à l'extrémisme sunnite qui s'est appelé Al-Qaïda, puis Daesh, et on allait installer l'Iran comme puissance prépondérante au Moyen-Orient.
Si on s'arrête un instant là-dessus, contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas forcément toujours eu raison sur tout. Mais sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez un point de vue extrêmement minoritaire, je parle de la première guerre du Golfe, je parle de 1991, et que le temps passant, de plus en plus de gens, il faut le reconnaître, sur ce point vous donne raison.
C'est vrai, il ne faut pas oublier cependant qu'il y a des facteurs endogènes dans l'islam. Autrement dit, je fais bien la distinction entre l'islam, 1,5 milliard d'humains, et puis l'islamisme radical qui, précisément, est représenté par une tradition ancienne, le hanbalisme, Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle, la tradition du djihad, mais le wahhabisme depuis le XVIIIe siècle, les frères musulmans depuis la chute du califat ottoman, 1924-28, c'est la création des frères musulmans, et ces deux courants, le wahhabisme et les frères musulmans, sont des courants qui, naturellement, expriment cette islam radical que nous avons devant nous et qu'il faut combattre. Donc, je dirais, essayons de bien comprendre le monde dans lequel nous vivons pour cibler l'adversaire exactement. Car rien ne serait pire que l'hystérisation de tout cela entre l'Occident, l'Europe et le monde musulman.
Catherine,
oui, là, vous avez dit, là, vous venez de dire tout à l'heure, quand vous aviez réagi avant tout le monde, ce qui n'était pas le cas à gauche sur ces questions-là, et vous dites à un moment où il était encore possible de l'éradiquer, cet islamisme radical qui montait. Parce que vous pensez aujourd'hui que ça devient de plus en plus difficile, voire impossible ?
Non, ce n'est pas impossible, mais il faut aider les musulmans. Le président de la République a dit l'islam est partout en crise, c'est vrai. Mais il doit surmonter cette crise, parce que cette crise est celle de la modernité. Il faut qu'il sorte d'interprétations littéralistes, d'interprétations qui, naturellement, le conduisent dans le mur. Donc, il faut compter sur les musulmans eux-mêmes pour se reprendre et pour dominer cette question et mettre à l'écart cette minorité fanatique qui leur fait du mal.
Vous y croyez, franchement ? Vous le dites, là, c'est un vœu pieux, vous y croyez ?
Ah ben, je pense qu'il y a des forces dans les sociétés musulmanes qui sont hostiles à l'islamisme. Oui. Nous devons être capables de choisir.
On va revenir à la fin de l'émission, dans le dernier sujet de l'émission, sur ce point très important. Puisque maintenant, je pense qu'il faut se poser la question de comment on fait, quoi. Comment on fait pour le faire reculer, cet islamisme radical. Alors, le premier volet de cette question est, au sens large du terme, peut-être sécuritaire, mais il pose des vraies questions qu'on va poser à Jean-Pierre Chevènement dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et notre invité Jean-Pierre Chevènement, qui veut risquer sa vie, la sauvera. Mémoire aux éditions Robert Laffont. Jean-Pierre Chevènement, je le répète, qui a été ministre de l'Intérieur de juin 1997 à août 2000. Depuis 1982, 33 attentats islamistes. Depuis 2015 seulement, 25. 25, mais 61 déjoués. Et 32 déjoués depuis 2017. D'abord, j'ai une première question, mais ce n'est pas certain que vous ayez la réponse, Jean-Pierre Chevènement. Mais comme moi, je ne l'ai pas du tout, je suis obligé de vous la poser. Comment expliquer que, entre 1996 et 2011, et donc notamment les trois années et quelques où vous avez été ministre de l'Intérieur, il n'y ait pas eu d'attentats islamistes en France. Vous avez une explication ou pas ?
J'ai une explication, c'est que le GIA a commencé à être sérieusement affaibli et puis ses échecs patents avaient frappé les imaginations. Rappelez-vous l'Airbus à Marseille. Rappelez-vous,
ça,
les attentats...
Ça, c'est en décembre 94, de mémoire.
94, oui. Les attentats du RER.
Oui, et, au Palais Royal.
Et l'attentat raté contre le TGV de Mohamed Kalkal. Oui. Mais disons qu'on pouvait avoir l'impression que c'est cet islamisme territorialisé, puisqu'il avait quelque chose à voir avec ce qui se passait en Algérie, oui. Était dominé parce qu'en même temps, en Algérie, les islamistes avaient le dessous.
Donc c'est, le GIA était finissant. Et Al-Qaïda Daesh n'était pas encore là, en quelque
n'était
sorte.
N'était pas encore là, et la France n'était pas encore, je dirais, impliquée dans les guerres du Moyen-Orient. Elle n'avait plus de soldats là-bas. Donc, nous étions, en quelque sorte, dans une période relativement à couvert.
Alors, je voudrais vous poser maintenant...
Vous voulez dire par là que c'est un danger pour la France, aujourd'hui, d'être présente au Mali ?
Ah mais je pense que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes environnés de pays qui sont en crise, en Afrique du Nord, en Libye, l'Égypte, le Moyen-Orient, la Syrie, le Liban, l'Irak, tout ça, c'est un chaudron, et nous sommes au milieu. Donc voilà, il faut savoir la moins mauvaise politique possible. Et s'agissant du Mali, aujourd'hui, malheureusement, c'est une guerre qui s'est étendue au Sahel, mais qui pourrait emporter toute l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, toute l'Afrique, parce que vous avez des djihadistes qui sont très actifs au Nigeria, Boko Haram, ou bien au Mozambique, ou même en République démocratique du Congo. Par conséquent, c'est un combat de longue durée qu'il faut voir dans toute sa perspective historique. Et pour cela, il faut bien choisir nos cibles.
C'est très intéressant pour nos auditeurs d'entendre tous ces éclairages géopolitiques de votre part, Jean-Pierre Chevènement. Mais je voudrais maintenant vous poser une autre question un peu difficile. Évidemment, vous n'êtes pas ce qu'on appelle, d'une expression d'ailleurs discutable, mais peu importe, droit de l'homiste. Mais vous êtes attaché aux libertés et aux droits fondamentaux. Lorsque se produisent des actes terrifiants comme celui d'hier, une partie de la population et une partie des acteurs politiques font des propositions dont je suis, et même, je pense, toute personne de bonne foi, sont parfois contraires à des principes fondamentaux de notre droit pénal civilisé, de notre démocratie. Par exemple, quand les gens disent... personnes qui ont été condamnées pour lien avec le terrorisme et qui ont purgé leur peine, il faut les laisser en prison. Est-ce que vous pensez qu'on peut recourir à des mesures de ce type qui piétinent, encore une fois, nos droits fondamentaux? Quand on a accompli sa peine, on ne peut pas vous recondamner derrière.
Il y a une solution qui est ce qu'on appelait la double peine, que moi j'ai maintenue quand j'étais ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on pouvait interdire du territoire national des gens qui s'étaient rendus coupables de crimes terroristes.
Et quand ils sont français ?
Alors, quand ils sont français, ça pose un problème particulier, mais on peut les assigner à résidence. Enfin, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Disons que le problème n'est certainement pas simple, mais il y a beaucoup à faire aussi au niveau de la justice. Il faut que la justice soit également... sensible aux problèmes que nous pose dans la durée l'islamisme radical.
D'accord. Alors, ça commence, on aborde finalement la question la plus difficile, je crois, la plus nécessaire, mais la plus difficile, qui est au-delà même des strictes mesures sécuritaires, du renforcement du renseignement, de l'infiltration, de déjouer en amont les attentats. Au-delà de ça, et comment mener le combat, je ne dis pas la guerre, parce que je n'aime pas qu'on exprime l'expression guerre, on n'est pas en guerre, il n'y a pas un État, et puis on n'est pas là à se tirer les uns sur les autres, mais le combat contre l'islamisme radical. Comment éviter que plus de gens se radicalisent, et se radicalisent encore, et, au-delà même du fait de déjouer les attentats. Et sur cette question fondamentale, on va écouter Jean-Pierre Chevènement après la dernière brève pause.
Europe 1. Médiapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Jean-Pierre Chevènement, dernière question, la plus lourde, mais la plus importante, la plus compliquée. Comment faire pour les arrêter? Écoutez le président de la République qui dit qu'il faut le faire, mais pas encore comment.
Je veux dire ce soir, de manière très claire, ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement. Mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République, et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent. Et nous devons nous tenir tous ensemble, citoyennes et citoyens. Et j'appelle l'ensemble de nos compatriotes, dans ce moment, à faire bloc, à être unis, sans aucune distinction, quelle qu'elle soit. Car nous sommes d'abord et avant tout des citoyens unis par des mêmes valeurs, une histoire, un destin. Cette unité est indispensable. Beaucoup de choses ont été dites, et je n'en rajouterai pas ce soir. Les actes sont là et seront là.
Jean-Pierre Chevènement, avec Catherine Ney pendant la pause, nous évoquions le fait que, pour nous, ils ne passeront pas, nous rappelait « no pasarán » des républicains espagnols face aux fascistes. Et on se disait, c'est une curieuse référence, étant donné qu'en l'espèce, ils sont passés. Et à ce moment-là, vous avez dit, mais il y a une autre référence, laquelle ?
La bataille de la Marne, les deux batailles de la Marne, en 1914 et en juin-juillet 1918, quand l'armée allemande, renforcée par les divisions venues de Russie, puisque la Russie avait mis bas les armes, hein, ont essayé de l'emporter dans une dernière manœuvre avant l'arrivée des troupes américaines.
Donc c'est probablement ça, évidemment, que le président de la République avait en mémoire lorsqu'il a repris cette expression. Les actes sont là et seront là. J'imagine que là, pour le coup, c'est une... sur le futur employé, c'est une référence implicite au projet de loi à l'origine dit contre le séparatisme, mais en fait, bon, au projet de loi sur le fond pour lutter contre l'islamisme radical, Catherine Ney.
Oui, mais on attend juste. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans cette loi. Elle sera présentée le 9 décembre en Conseil des ministres, qui sera le jour anniversaire de, je crois, de la loi de 1905. On va voir ce qu'il va y avoir dedans. Il ne pour empêcher justement ces gens de ne pas passer alors qu'ils sont déjà là, qu'ils occupent le terrain et qu'ils sévissent presque tous les jours.
Mais il y a quand même des choses qui sont annoncées qui, si j'ai bien compris le sujet, sont à la fois dans l'esprit de ce que vous avez tenté, le premier esquissé, on va dire, Jean-Pierre Chevènement, lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur et en charge des cultes, sur la création d'un islam de France. Vous évoquez ça à la page 337 de votre livre. Et ce que d'aucuns comme Hakim El Khoury et autres recommandent de longue date sur le contrôle du financement, sur la transparence des comptes dans les associations, sur la formation des imams, sur un financement qui ne soit pas lié à l'étranger, etc., etc.
Je veux revenir sur l'appel à l'unité lancé par le président de la République, qui ne voit que notre pays est gravement menacé de toutes parts. Le risque islamiste, le risque sanitaire, l'effondrement de l'économie, les plans sociaux à l'horizon. Donc nous avons besoin d'unité, de rassemblement, pour aller à l'essentiel. Et s'agissant de l'islamisme radical, nous devons nous appuyer sur les musulmans français qui veulent absolument terrasser ce mal.
Et vous trouvez qu'on les entend suffisamment ?
Eh bien, c'est à eux de se faire entendre. Mais Alain...
Olivier.
Olivier Duhamel.
Grand classique.
Hein, oui. Olivier Duhamel a évoqué la consultation que j'ai lancée sur l'islam, dont Nicolas Sarkozy a tiré le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui doit certainement être perfectionné pour être mieux associé à la sélection des imams, à leur formation, à des habilitations qui pourraient être données ou retirées. Tout cela, ça fait partie de la loi contre le séparatisme. Et puis, je voudrais souligner le rôle de la FIF, de la Fondation pour l'Islam de France, qui D'accord. est une fondation laïque, éducative, culturelle, confiée à Khaled Bencher, et qui peut faire un travail de formation à la loi républicaine pour enseigner la République à ceux qui, visiblement, l'ignorent.
Ce qui est essentiel, et ce sera le dernier mot avant la chanson, c'est que, je reviens à ce que vous avez dit au tout début sur l'appel du président à l'unité, je pense que, de temps en temps, les choix des hommes politiques, quand ils sont en responsabilité, sont dictés par la force des événements. Jean-Pierre Chevènement, à un moment de sa vie, Macron a été chevènementiste. Et puis, il est devenu le symbole de ce que vous appelez l'européisme, la mondialisation, l'ordolibéralisme allemand, etc., etc. Et depuis la crise de la pandémie, d'une part, et ce qui se passe là, d'autre part, est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, les événements le font revenir à ses origines chevènementistes ?
Écoutez, je m'interdis tout commentaire de ce genre et je ne vais pas tirer la couverture dans
vous,
un sens.
Vous m'en laissez la responsabilité.
Je vous en laisse la responsabilité. Je dis que, naturellement, Emmanuel Macron est confronté à d'immenses défis. Il y fait face et je ne me sens pas d'humeur à participer à tous ceux qui visent à le décrédibiliser ou à le tirer le tapis sous les pieds. Je pense que dans ce moment-là, il faut que nous fassions bloc.
Il faut que nous fassions bloc. Chevènement reprend les mots de Macron, qui lui-même reprend des idées fortes de Chevènement. Ainsi va notre histoire politique. On va quand même avoir un extrait d'une chanson pour finir, parce que c'est une chanson gaie, c'est une chanson sur revivre, revivre comme vous avez revécu en 1998. Vous dites dans votre livre que les Français ne se souviennent de vous que pour un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, dans une modestie qui vous honore. Ils se souviennent aussi que vous êtes mort, Jean-Pierre Chevènement.
Et que c'est un miraculé.
Et ressuscité.
Chanson je ne suis écrite. Pas vraiment mort, puisque je n'ai pas rencontré la mort. Bon. Donc, la mort et moi, nous sommes frôlés.
Alors, c'est une chanson composée par Louis Amade, Pierre Delanoë et Gilbert Bécaud en 1958, choisie par Jean-Luc Arblade. C'est un ode de la vie. Si je pouvais revivre un jour ma vie.
Si je pouvais revivre un jour ma vie, je rirais bien où j'ai pleuré naguère. Je construirai ce que j'ai démoli et je ferai de ce chant de misère un vagabond sans merci. Si je pouvais revivre un jour ma vie sur les débris de ma pauvre bohème, je saurais bien te dire que je t'aime. À toi pour
je aussi. Ferai des anciennes misères un feu de joie de minuit. C'est pas pour demain les feux de joie de minuit, puisque ça s'arrête à 21h. De ça, on a parlé en long, en large et en travers ailleurs. Ici ce matin, grâce à vous Jean-Pierre Chevènement, nous sommes allés en profondeur sur les réflexions nécessaires après le drame terrible qui s'est passé hier. Et je vous en suis très reconnaissant, je répète une dernière fois, qu'il faut lire votre livre que j'ai dévoré, Qui veut risquer sa vie la sauvera, aux éditions Robert Laffont. Merci à Catherine Ney de participer si intensément à cette émission, à Jean-Luc Arblade de l'avoir réalisé, à Capucine Patouillet, préparée. Et faites-la écouter par vos amis sur Europe 1.fr, parce qu'elle est forte.